Je voudrais témoigner d'une pratique, en fait, ici, que j'ai eue de collaboration assez fréquente et assez récurrente et qui se poursuit toujours avec des artistes, des lieux de culture, des compagnies de théâtre, etc. Donc, qui permet, en fait, de faire un lien entre ce que je fais comme travail de recherche et ce que des artistes veulent développer de façon créative dans leurs propres travaux. Donc, bon, je ne vais pas faire un long préambule, mais il est important de savoir que c'est un travail qui n'est jamais un travail de commande, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des artistes qui me commandent un rendu graphique ou quelque chose comme ça. Et inversement, ce n'est pas moi qui demande aux artistes de faire du beau sur un travail scientifique. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit ici. Il s'agit en fait d'une démarche conjointe, d'une démarche de recherche artistique et scientifique, puisque les deux sont des démarches de recherche. C'est une démarche qui n'est pas facile et qui est en fait assez souvent soumise à des échecs, mais bon, ça fait partie de la vie. Et je pense qu'il vaut mieux arrêter quand ça ne marche pas que de forcer en fait des recherches qui n'aboutiraient pas. Et en fait, bon, plus ça va, plus je m'en rends compte assez rapidement. Et en fait, les cas d'échec sont justement les cas de commande, en fait, c'est-à-dire les cas où il n'y a pas implication réciproque, il n'y a pas mise en danger réciproque, je dirais. En fait, ça se place dans le cadre dans le cadre de mon laboratoire, donc qui s'appelle le LIMSI CNRS, qui est un laboratoire qui comporte environ 120 permanents et 80 thésards. Et en fait, les deux tiers du laboratoire sont dédiés à la communication de machines en général. Voilà. Et donc, plus précisément, ces travaux se situent dans le cadre d'un groupe de recherche, d'un thème de recherche qui s'appelle VIDA, Virtualité Interaction Design et Art, qui a un petit peu la particularité d'être à la fois interne et externe. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas typiquement un thème de recherche du laboratoire comme les autres. C'est un thème partagé, en fait, qui est le lieu de collaboration, de séminaires. Je signale d'ailleurs qu'il y a des séminaires qui vont commencer sur le thème du brouillard et de la représentation, qui sont animés par Nathalie Delprat, qui est physicienne. Il y a une liste de diffusion des informations qui s'appelle arcedu@limsi.fr, à laquelle vous pouvez vous abonner, et qui diffuse de façon très sélective des informations, pas uniquement sur ce que nous faisons, mais dans l'ensemble sur ce qui se fait, plutôt dans le domaine francophone, mais aussi éventuellement des appels à projets, des choses comme ça. Mais spécialisée en sciences, c'est une liste qui n'est pas très bavarde, hein. Il y a un maximum une douzaine de postes par mois, elle est contrôlée, il n'y a pas de spam, c'est pas une liste très, très. Elle est volontairement ciblée pour être complémentaire d'autres listes de diffusion. Et il y a des projets de recherche donc transversaux, dont je vais vous en montrer, puis il y a des collaborations. Ce que je vais faire, je vais commencer par passer une vidéo, en fait, parce que finalement, c'est par des vidéos que je vais vous montrer le travail. Et je vais commencer par une vidéo. Alors, les travaux, en fait, sont pour beaucoup situés dans le domaine qu'on appelle la réalité augmentée, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité augmentée? C'est la combinaison, en fait, de l'espace physique, quel qu'il soit, et d'informations numériques. Donc, c'est, en fait, la façon de faire intervenir des données numériques dans l'espace physique. Alors, je vais vous montrer un premier projet. Ouais. Voilà, donc c'est un projet avec Bertrand Plane que vous voyez ici, qui est un projet de réalité augmentée audio et vidéo. Donc le but, c'est de considérer l'instrument qui est l'orgue comme un instrument ouvert que l'on peut en fait partager avec le public de façon plus présente que cet instrument dont on a l'habitude de façon assez distante. Et pour ça, donc là, on a fait un travail qui impliquait pas mal de personnes parce qu'il était hybride image et son. Il y a en particulier des gens, donc Bertrand Plane qui est pour l'audio, Brian Katz et Marcus Nösterling qu'on a vu au début avec le casque sur la tête, donc qui a travaillé sur l'audio, Christophe D'Alessandro, donc qui est en fait chercheur au laboratoire mais aussi organiste, donc qui avait été l'initiateur de ce projet. Et donc le but, c'était comment peut-on faire avec un instrument ancien comme une orgue pour essayer de faire en sorte que l'instrument soit plus visible à la fois sur le plan audio et sur le plan visuel. Donc pour ça, il y avait une capture du son qui était faite dans de nombreux endroits à l'intérieur de l'orgue, qui était retravaillée au niveau d'une régie audio que l'on voit ici, qui à la fois faisait un travail numérique sur le son, donc un travail de filtrage et de modification du son, et qui en même temps préparait aussi le son pour le rendu graphique. L'idée du rendu graphique, c'était comment peut-on faire un rendu graphique qui permette de donner un peu plus de visibilité à ce qui se passe dans l'orgue, sans pour autant faire trop de la décoration. Donc c'était une idée assez simple de faire un instrument hybride, qui soit un instrument à la fois digital et classique, en récupérant le son, en l'analysant, et en le reprojetant sur les tuyaux d'orgue, de façon à peu près correspondant aux bandes de fréquence. Bon, bien sûr, les tuyaux sur lesquels on projette ne sont pas ceux qui sont joués, puisque la façade d'une orgue représente une toute petite proportion en fait des tuyaux qui sont joués. Par contre, la répartition gauche-droite a été à peu près respectée par rapport à la capture, c'est-à-dire qu'en fait, la bande spectrale est divisée en deux, correspondant en gros. Voilà. Là, comme vous voyez, par rapport à l'œuvre précédente, il y a beaucoup plus de traitement numérique qui est fait sur le son. Évidemment, la métaphore qui vient à l'esprit, c'est celle des LED, hein, des barres qu'on a sur les amplis. Vous voyez que d'ailleurs, on avait même été jusqu'à faire une petite rémanence des pics sur les volumes. Alors, bon, c'est pas très décoratif, si vous voulez, dans le sens où il n'y avait pas des effets. C'était un travail qui était volontairement resté assez sobre, mais par contre qui était intéressant sur le long terme, parce qu'en fait, les gens qui sont assis au concert disaient qu'il y avait une sorte d'effet un peu hypnotique de regarder l'instrument de cette façon-là. Voilà, techniquement, ça demande un certain nombre de contraintes, en particulier pour que les barres tombent bien sur les tuyaux d'orgue. Comme vous pouvez vous en douter, c'est pas travail à faire quand même. Chose intéressante, puisqu'on est sur les nouveaux terrains, c'est de découvrir qu'un tuyau d'orgue est une bonne surface de projection, ce qui n'était pas évident. Tant qu'on n'avait pas mis un vidéoprojecteur sur un tuyau d'orgue, on n'était pas du tout sûr que ça convienne bien. Ça, c'est quand même une philosophie aussi sur le long terme, de se dire que des lieux qui ne sont pas a priori des lieux pour la projection, par exemple, peuvent l'être quand même et tout à fait répondre de façon satisfaisante sur le plan lumineux. Donc c'est intéressant aussi, par rapport à justement ces nouveaux terrains d'exploration, de se poser le problème de savoir où peut-on projeter de l'information, et est-ce que finalement il n'y a pas des lieux auxquels on n'a pas pensé qui peuvent convenir de façon aussi bien qu'un véritable écran. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là pour celui-ci. Oui ? Oui, Vincent ? Alors, à part Bach, il y avait d'autres œuvres du répertoire, mais il y avait aussi, alors je suis désolé, les transparents, j'ai du mal à les passer, tout était dessus, mais en fait, il y avait aussi des œuvres qui avaient été composées, comme celle-ci, par Christophe D'Alessandro, qui est l'organiste, en fait, et qui avaient été composées, en fait, intentionnellement pour cette série de concerts, donc, qui étaient des œuvres qui avaient été faites pour l'occasion. Ouais. Mais c'était intéressant aussi, d'ailleurs, enfin, tout ça était très cohérent, en fait, et c'était intéressant qu'on ait aussi cette composition de morceaux spécifiquement. Et c'est là vraiment où, en fait, voilà, bah si, on l'est. Ouais. Pardon ? Voilà, c'est ça. Il y avait les deux étaient importants, et la cohérence entre les deux était importante. Alors, une petite anecdote, par exemple, c'est qu'en fait, quand on capture le son de façon électrique, on pouvait avoir l'image en avance sur le son, presque, légèrement, par rapport au temps de propagation du son dans l'église. Donc, bon, c'est des petits artefacts. Bon, aussi, ce que vous n'avez pas tellement remarqué, mais c'est qu'il y a des gens qui se sont servis du système comme applaudimètre aussi, parce qu'en fait, évidemment, on capturait à l'intérieur de l'orgue les applaudissements de l'extérieur, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, bon, on se retrouve avec des dispositifs qui sont complètement inhabituels, quoi. Et du coup, il y a aussi tout un travail qui avait été fait sur le plan de l'audio, sur jouer en fait avec l'acoustique de l'église, quoi, qui était quand même très intéressant, un travail sur le feedback. Il y avait des pièces qui étaient pratiquement que du feedback, en fait, qui étaient que sur la, où on entendait beaucoup plus le son de l'église que le son de l'orgue, en fait. Ça, c'est, enfin bon. Et où pratiquement le son de l'orgue était vraiment ténu, en fait, hein, presque rien. Bon, un deuxième projet, qui est beaucoup plus récent, qui est en fait l'équivalent du précédent sur le plan visuel, qui par contre là n'avait pas de dimension audio, mais qui par contre, je vais avancer un peu quand même pour aller. Qui est en fait un projet de réalité augmentée. Je vais baisser un peu le son, c'est pas indispensable en plus. Voilà, c'est un projet de réalité augmentée, et cette fois-ci mobile. Donc, il y avait une péniche qui était équipée de un vidéoprojecteur très puissant, là, cette fois-ci, et de projecteurs infrarouges qui éclairaient, en fait, ça vous ne le voyez pas, en fait, puisque la caméra ne le capte pas, donc qui éclairaient, en fait, les bâtiments et les zones autour de la scène. L'image... Donc donc vue de la péniche était capturée par des caméras, transformée en temps réel. Donc on voit ici l'image infrarouge retravaillée, transformée et reprojetée, donc si possible de façon calibrée avec l'environnement. Donc vous voyez ici, par exemple, on se sert du contour du bateau pour faire rebondir des particules qui du coup sont arrêtées par l'image que qu'on a. Bon, là cet effet est moins visible et moins et moins directement ancré sur l'image. On va en voir d'autres après qui sont plus lisibles. Donc là, la difficulté, c'est que on doit en temps réel, en fait, très vite analyser l'image et la reprojeter. Donc il y a un problème de lag ou de délai entre le moment où on capture et le moment où on retraite, sachant que c'est des traitements qui peuvent être quand même assez lourds. Bon, on peut faire ça parce qu'on a, voilà, typiquement, vous voyez, là, on a aussi un système où l'éclairage est directement aligné sur l'image. On voit d'ailleurs les problèmes de calibrage qu'on a, hein, selon la façon dont on règle. Là aussi, on a de nouveau des contours qui sont... Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce genre de dispositif, bon, là, on n'a pas trop travaillé dessus, mais c'est que les gens qui passent, en fait, deviennent un peu des participants, malgré eux, à ces installations. Voilà, un bateau convenait assez bien en raison de sa vitesse assez lente et puis du fait qu'on avait des... Alors, par contre, le problème un petit peu dans ce type d'installation-là, c'est qu'on souffrait un petit peu de l'éclairage public, évidemment, qui était un petit peu trop important. Bon, il y a des effets comme ceux-là qui ne rendaient pas trop bien, qui étaient des effets à base de caractère. On avait quand même... En fait, c'était présenté un peu comme un travail en cours de réalisation. Et là aussi, je voudrais insister, c'est que ça peut être un peu frustrant pour des artistes de travailler avec des scientifiques parce que ça ne va pas forcément être aussi fini que le type de travail dont ils ont l'habitude. Mais inversement, je pense qu'il faut aussi investir le champ de l'inachevé, en fait. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de présenter un travail qui n'est pas tout à fait, achevé. Parce que ça montre aussi l'état des démarches, la façon dont l'artiste peut s'impliquer dans la réalisation, etc. Donc ça, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Alors, c'est des choses qu'on a découvertes en fait en le faisant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, par exemple, ces contours qui sont finalement sur le plan du traitement les plus simples sont ceux qui fonctionnaient le mieux sur le plan de la projection. Malheureusement, on ne pouvait pas louer une péniche un soir avant pour faire des tests. Donc c'est pour ça aussi que c'était un travail en cours de réalisation, parce qu'en fait, on l'a mis au point en le faisant. Bon, ceci dit, c'est intéressant parce que ben, ça ouvre toute une perspective sur la mobilité dans la ville et la possibilité d'enrichir de façon dynamique les environnements urbains. Y compris quand même des choses qui étaient relativement éclairées comme ces bateaux. Bon, évidemment, on avait du coup des projecteurs assez puissants. Les projections infrarouges, c'était des projecteurs de théâtre standard qui... J'en avais deux qui tournaient. Bien. Continuons, en fait. Vous aurez des vidéos. Hein, tant pis. Alors, ça, c'est un projet avec Roland Cahen, Diemo Schwartz et Étienne Brunet, qui est un projet, en fait... Alors, ça, c'est le seul projet que je vais présenter qui est vraiment plutôt réalité virtuelle. Bien qu'il y ait quand même une augmentation, il y a aussi un aspect augmenté puisqu'il y a une connexion très directe entre ce qui est joué par le musicien et les plumes. J'explique le dispositif. En fait, donc, c'est une idée qui avait été proposée par Roland Cahen, Diemo Schwartz et Yann Olivier, donc un étudiant de Nancy, qui était comment représenter des éléments sonores, comment naviguer dans ces éléments sonores et comment les réutiliser pour faire une improvisation en même temps que l'instrumentiste. Donc en fait ici l'instrumentiste joue, ces notes sont captées par Cathart, donc, qui est un logiciel développé par Dimo Schwartz et l'IRCAM, transformé en des éléments graphiques. Et ensuite, Dimo Schwartz et Roland Cahen ont la possibilité de se promener en fait dans cet espace de plumes. Et lorsqu'ils s'approchent des plumes, ils redéclenchent des sons qui correspondent en fait aux notes qui ont été capturées. Donc en fait, on entend à la fois le musicien et une sorte de co-improvisation par les deux personnes qui sont sur les ordinateurs et qui viennent rajouter leur son numérique, entre guillemets, puisque c'est en fait que des samples de l'instrument qui sont captés au fur et à mesure. Voilà, donc on voit là par exemple Dimo Schwartz qui, avec sa main droite, se déplace en fait sur une tablette graphique et en fait se déplace à l'intérieur de l'espace des plumes pour rejouer des notes et faire donc improviser en fait en même temps que l'instrumentiste. Donc on voit petit à petit l'espace se peupler en fait de notes dont certaines sont au bout d'un moment oubliées. Et donc on a deux modes de parcours, on a un parcours très manuel qui est fait par Dimo Schwartz et puis un parcours qui est plus fait de façon automatique avec des boucles et des trajectoires circulaires par Roland Cahen. Donc là on voit effectivement un déplacement à l'intérieur de l'espace. Voilà, puis on voit des trajectoires, là on voit une trajectoire un peu ici. Bon, c'est un peu conceptuel hein, comme travail, mais bon, je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet quand même en temps réel de prendre un instrument et de rejouer avec en fait. Et de donner quand même un minimum de retour au public sur ce qui se passe, même si, bon, je pense que pour le public, je pense qu'en fait c'est trop compliqué. Là, dans l'état où c'est, le travail est un peu trop compliqué. Je pense qu'il mettrait plus de lisibilité, mais il est aussi d'autant plus compliqué que la vidéo, en fait, va très vite, en fait, puisque c'est quand même une performance qui durait 25-30 minutes. Donc on va très vite, on voit pas assez bien l'espace se construire, on voit mieux lors de la performance. Voilà, enfin bon, c'est intéressant pour l'approche que ça propose d'une co-improvisation. Pardon. Voilà, donc là, alors c'est un travail qui est en fait, l'objet de ce travail, c'est de faire de la continuité entre un espace physique et un espace numérique avec des performeurs qui ont la capacité de contrôler ce qui se passe dans l'espace numérique. Donc ici, on a plusieurs choses. On a la danseuse qui est captée par une caméra avec une projection infrarouge, mise à l'intérieur de la scène, et on a l'acteur qui a des capteurs, des flexos sur ses bras, et des choses dans les mains, qui lui permettent en fait de contrôler en temps réel ce qui se passe et les animations qui sont proposées sur ce dispositif. Donc il y a aussi, alors ça se voit pas très bien ici, mais ça va se voir beaucoup mieux plus tard quand on sera plus face à l'écran. Il y a aussi le but de proposer au spectateur une sorte de trompe-l'œil, une sorte de perspective un peu type Renaissance, et d'immerger en fait les acteurs dans une sorte de continuité entre un espace numérique, donc de perspective, et la scène. Donc il y a un peu comme ces scènes de la Renaissance. Voilà. Donc là c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc il y a une idée d'essayer de les rendre présents dans cet espace et aussi de contrôler les déplacements qui ont lieu à l'intérieur de cet espace aussi. L'espace est volontairement un peu schématique, un peu type décor de théâtre, justement pour rester un peu cohérent et pas offrir non plus un jeu vidéo, parce que c'est pas non plus ça dont il s'agit, quoi. Ouais. Du coup, il y a quand même une recherche de la continuité, en fait, dans ce travail. Donc, continuité et contrôle. Et aussi le fait d'utiliser les acteurs à la fois physiquement et virtuellement, puisqu'on les capte en caméra et on les remet à l'intérieur de la scène. On va voir après un autre moment dans le dispositif. La compagnie, c'est un incident mémorable. Le metteur en scène, c'est Georges Gagneret. Et la pièce s'appelait Espace indicible. était basé sur des textes de Pérec en particulier. Voilà, donc là, on voit les deux acteurs qui sont filmés en temps réel. C'est leur visage qui sont filmés en temps réel, qui sont reprojetés dans la scène. Et ils se déplacent. En fait, c'est eux qui contrôlent leur déplacement à l'intérieur de la scène. Donc c'est des jeux assez complexes, hein, pour les acteurs. Parce que, bon, justement, en fait, Christophe Costet, qui maîtrisait assez bien, du coup, il guidait en fait la danseuse qui avait eu du mal à s'approprier les capteurs. C'est assez long, en fait, le temps d'appropriation d'un contrôle. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois... Une fois que les acteurs arrivent à bien le maîtriser, ils avaient pas mal de plaisir à le faire. Voilà. Bon, il y a pas mal d'autres projets, hein, qui sont. Allez sur vida.limsi.fr si vous voulez voir les autres. Donc, il y a pas mal de travaux qui ont été faits de façon plus ou moins répétitive avec les artistes ou les compagnies de théâtre, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu long de mettre en place une collaboration, et ça vaut la peine, une fois que ça a été mis en place, de répéter en fait les travaux. Ça montre en fait que de nombreux lieux se prêtent à des collaborations, que ce soit les espaces urbains, en interne ou en externe, des instruments. Je fais un travail aussi avec la Chartreuse en Avignon sur... un travail sur l'augmentation d'un espace historique avec des reconstitutions. Il y a plein d'espaces qui peuvent servir, des espaces qui ont été numérisés auparavant ou pas. Bon, la scène, les bords de scène n'étaient pas numérisés, mais ça peut être intéressant de travailler dans des espaces qu'on a déjà numérisés, dont on a les modèles numériques, parce qu'on peut dans ce cas-là faire une projection qui est calibrée. Je suis en train de lancer un projet avec le CEA là-dessus, et puis le GAMSO, donc un laboratoire à Marseille, et d'autres partenaires sur effectivement le lien entre patrimoine numérique et patrimoine physique. J'ai un travail aussi sur la projection dans l'ombre d'une personne qui est plus là pour qui va être fait dans une médiathèque, donc un espace plutôt très ouvert au public pour des lieux de passage. Bon, il y a plein de possibilités, des choses les plus disons solennelles, comme l'orgue ou la scène, à des choses qui sont plus ouvertes sur le public. Bon, on n'est pas les seuls à faire ça, hein. Il y a pas mal d'autres lieux qui le font. Pourquoi le fait-on dans un laboratoire de recherche? Parce que pour nous, c'est aussi l'occasion d'innover, de proposer des dispositifs originaux qui reposent pas forcément sur des problématiques scientifiques très complexes, mais qui sont des déclinaisons originales. Par exemple, ce travail qui a été fait sur la scène, je n'ai pas vu d'équivalent de réalité augmentée mobile faite en temps réel ailleurs. Donc, scientifiquement, il n'y a rien de très compliqué. Mais par contre, il y a un dispositif original qui est quand même dû à des travaux scientifiques et technologiques quand même assez pointus, quoi. Mais ce n'est pas en tant que tel. Par contre, il y a d'autres travaux qui m'ont permis d'aller vers des problématiques scientifiques nouvelles. Par exemple, on avait fait un travail avec Bertrand Plan, donc le même avec celui avec lequel on travaillait sur l'orgue et sur la scène, fait un travail qui était sur la projection de l'ombre dans un univers de réalité virtuelle pour des spectateurs qui regardent un dispositif de réalité virtuelle. Bon, c'était dans le cadre d'une œuvre d'art, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'apporte la projection de l'ombre dans un dispositif de réalité virtuelle. Alors, ça avait été regardé par d'autres chercheurs, mais on n'avait jamais été aussi loin dans les diverses déclinaisons qui pouvaient en être faites. Et du coup, ça pose des problèmes, y compris sur des aspects psychologiques, sur la présence d'un joueur ou d'un utilisateur dans ces univers virtuels, et la façon dont l'ombre est une des façons d'engager l'utilisateur dans un dispositif. Voilà, donc il y a une palette des problématiques qui vont des aspects scientifiques assez forts, des aspects scientifiques moins achevés, des aspects très relativement finis comme le travail sur l'orgue, à des aspects moins finis comme le travail sur la scène, où je pense aussi à un travail qu'on avait fait, il y a Fabienne Gotusso et David Blair qui sont ici, un travail qu'on avait fait dans le cadre du réseau numérique, donc qui était sur le lien entre des capteurs et des capteurs de signaux physiologiques et des rendus graphiques ou audio, bon, qui était vraiment de l'ordre des ateliers, mais qui était intéressant. Enfin, je pense que Fabienne garde un bon souvenir de ce travail, bien que c'était effectivement des travaux qui étaient plus là du défrichement. Bon, on a montré à la fin une sorte de, de rendu, mais c'était pas, on ne pouvait pas considérer ça comme un spectacle du tout. C'était plus, bon, on avait expérimenté, défriché, puis on montrait où on en était arrivé et les perspectives que ça ouvrait en montrant quelques dispositifs. Donc je pense qu'il faut ce sont de nouveaux terrains. Je suis d'accord avec le fait qu'on a des nouveaux terrains, mais faut les investir de façon très ouverte, très libre, très créative et de façon très réciproque aussi entre artistes et scientifiques. Et c'est des lieux très intéressants qui ouvrent, enfin, à mon avis, ouvrent de nombreuses perspectives à la fois sur le plan scientifique et sur le plan artistique. En tout cas, personnellement, j'en tire beaucoup de plaisir et c'est quelque chose que je continuerai à faire. Ouais, ça sent bien, mon ordinateur tombe en veille. Donc, Merci.
En fait, dans cette collaboration entre artistes et scientifiques, oui. Finalement, en tant que chercheur, qu'est-ce que ça vous permet de défricher aussi de façon différente?
Alors, ça, c'est une question qui est relativement intéressante. Bon, d'abord, je crois qu'il y a un petit préambule quand même. Je pense que les scientifiques qui travaillent dans ces collaborations-là doivent avoir un minimum de sensibilité artistique. Et inversement, je pense que les artistes qui collaborent avec des scientifiques doivent avoir un minimum d'intérêt pour le travail scientifique. Je pense que c'est difficile d'envisager ce type de collaboration complètement en restant chacun sur ses territoires. Non seulement en termes de problématiques de développement, mais... Et donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, ça m'apporte, en fait, de me poser la question... Parce que, bon, c'est vrai, quand on fait du travail scientifique, souvent, on se pose plus des questions en termes de déclinaison industrielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire... Quel va être le produit de demain qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on est en train de développer, ou quel va être l'industriel qui va trouver que c'est génial et puis que ça l'intéresse beaucoup. Et, en fait, ben, finalement, souvent, on fait des déclinaisons qui sont assez pauvres dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, on prend ce qu'on a fait, puis on en fait un petit delta qu'on va faire un peu consolider pour faire une petite appli et un truc un peu bien ficelé. Mais finalement, pour nous, scientifiques, l'aspect applicatif nous décale moins quand il se fait sur des applications, je dirais, non créatives, qui sont plutôt des déclinaisons assez immédiates. Et donc, l'intérêt, en fait, pour moi, ce que ça m'apporte, c'est qu'en fait, l'écart entre le travail scientifique et son application est beaucoup plus grand et du coup, ouvre beaucoup plus de portes que les simples déclinaisons qu'on peut en avoir. Et j'ai beaucoup plus de facilité à rebondir sur les travaux que je fais s'ils ont été justement déclinés sur des situations créatives que s'ils ont été faits dans des applications immédiates, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est... Enfin, ce que ça m'apporte, c'est en fait un décalage, en fait. Et alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des collègues avec qui on a collaboré sur ces choses-là, et il y en a que ça gêne. Par contre, les étudiants qui ont collaboré sur ces travaux-là n'ont jamais été gênés par ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui me semble important, c'est dans ce type de travaux, c'est très, très motivant pour les étudiants. Et ça leur permet à la fois de découvrir les problématiques de l'art contemporain, qu'ils connaissent généralement très mal, tout au moins de façon souvent très galvaudée. Et en même temps, pour eux, moi je trouve que c'est bien parce que ça leur montre un peu ce qu'est une approche créative de leur métier. Et je pense que pour les années qui viennent, plus on sera créatif, plus on aura de chances de rester sur le marché du travail, parce que je pense que les temps sont durs et c'est justement ceux qui savent innover et créer qui résisteront bien. Donc je pense qu'il y a aussi finalement une leçon à tirer de ça, c'est que finalement c'est vraiment bien d'impliquer les jeunes dans ce type de recherche parce que ça leur ouvre des perspectives et en plus c'est vraiment des collaborateurs géniaux, quoi. Enfin, moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à travailler avec des étudiants, puis en plus ils me le redemandent, hein. Il y en a qui me disent ouais, surtout si tu as un projet, n'hésite pas, tu me fais signe et tout. Hein. Donc, ça, c'est bien. Ouais, non, mais ça fait plaisir. Non, c'est vrai que c'est agréable. Et alors que, bon, c'est pas toujours facile en plus. C'est vrai que pour eux, c'est souvent des choses qui sont là aussi relativement. Et du coup, j'essaye aussi dans mes projets d'enseignement, donc là, pas uniquement pour la recherche, parce que je suis également la moitié du temps enseignant. C'est intéressant aussi d'avoir ce type de collaboration. Donc, qui là ne sont pas montrés ici, mais qui souvent servent un peu d'amorce aux travaux qu'on a vus ici. Et donc, sur le plan de l'enseignement, je trouve que c'est très intéressant. Ça m'apporte aussi, pas seulement comme chercheur, mais aussi comme enseignant. Parce que ça permet de proposer des projets qui sont là aussi un petit peu mieux qu'une simple déclinaison ou un truc déjà fait mille fois. par justement des collaborations avec des artistes ou d'autres lieux de culture, compagnies, etc., qui vont proposer des projets qui seront quand même beaucoup plus décapants et innovants que ce que je pourrais faire moi tout seul dans mon coin, quoi, c'est clair. Et qui servent souvent aussi un petit peu ben justement de ballon d'essai pour des choses qu'on fait apparaître avec d'un peu plus grande envergure. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour la pédagogie.
Concernant le projet avec
la clarinette
basse.
Oui.
Bonsoir. Concernant le projet
avec Étienne Brunet, oui, sur voilà. La clarinette. Oui.
Je voulais savoir si vous aviez eu une expérimentation sur un répertoire classique pour la spatialisation sonore.
Non.
Vous n'avez pas essayé ?
Non, ça serait intéressant. Mais
Encore du Bach, peut-être, sur une suite de Bach ou quelque chose comme ça.
Et jouer avec aussi le contrepoint.
Pour savoir si c'était possible de le faire. Parce que...
Alors, là, il se posera un problème, parce qu'en fait, techniquement, les sons sont plutôt mis de façon un peu automatique, c'est-à-dire en fonction d'analyse du son. Donc il faudrait trouver une façon de répartir, si par exemple il y a plusieurs voix, donc si c'est des graves basses, ça sera facile de les répartir. Par contre, si ce n'est pas le cas, il faut trouver un mode de répartition ou éventuellement jouer sur deux instruments et les musiciens sont synchronisés. Enfin, c'est pas faudra, si on veut avoir une spatialisation un peu intelligente, il faut trouver une façon...
Alors, soit purement par terrain de recherche, alors.
Voilà, ça peut être tout à fait intéressant. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, le projet avec Roland Cahen et Dimo Schwartz se poursuit en fait dans le cadre d'un projet ANR, en fait, qui s'appelle Topophonie, pour lequel on va reprendre en fait ces dispositifs, ça sera un peu plus complexe, et on est tout à fait intéressé pour travailler sur du répertoire classique également, tout à fait.
Non, je dis ça parce que ça me semble, je suis musicienne.
Oui.
J'ai l'impression que la spatialisation sonore sur un répertoire tel que Bach ou... Enfin, je pense à Bach parce qu'il y a une architecture très, très, très intense, une structure très claire, mathématique, on va dire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, ou Mozart, les histoires de nombre d'or, etc.
Ouais.
Et je me suis demandé comment, justement, réaliser techniquement, parce que ça me paraît beaucoup plus... un défi encore plus grand que celui d'une improvisation musicale dite contemporaine, il me semble. Après, peut-être que je me trompe, mais ça me paraît très pointu, quoi.
Je pense qu'en fait, la structure qu'on a là convient bien à une improvisation de type free jazz, où finalement, on a une sorte de grosse masse de notes. Et effectivement, je pense que si on travaillait sur des répertoires classiques, il faudrait qu'on soit sur des choses beaucoup plus structurées. Mais c'est pas du tout incompatible avec l'esprit du projet. Simplement en termes de développement et de scénographie visuelle, ça forcerait à des choses qui sont quand même beaucoup plus structurées et organisées si on veut en fait un minimum respecter la structure du morceau sur lequel on travaille, quoi. C'est tout à fait possible,
cas, je trouve que c'est très réussi. Cette spatialisation sonore pour un musicien, c'est fantastique à voir.
Oui.
Vraiment, c'est.
Oui, apparemment, c'est génial. Le musicien appréciait, était très content.
De visualiser le son, c'est extraordinaire.
Ouais.
Bravo.
Il y avait cet aspect-là, plus l'aspect d'une sorte de co-improvisation. Il y avait ces deux aspects-là qui étaient intéressants.
L'interaction.
Voilà, alors il y a aussi effectivement, il y a toute cette notion de temps réel qui est effectivement tout se fait au fur et à mesure. Et ça, par contre, alors c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les travaux que j'ai faits et que je ferai jusqu'à ce que j'arrête d'en faire. Ça sera toujours sur du temps réel, quoi, sur vraiment être capable de capter. Aussi, enfin, moi, il y a vraiment des enjeux moi, qui m'intéressent et qui sont récurrents, c'est sur effectivement comment combiner l'image et le son. C'est vraiment, justement, là, c'est ces travaux sur le brouillard qu'on va faire et qu'on va poursuivre justement dans le cadre de Topophonie aussi, c'est comment granulariser l'image, granulariser le son et comment avoir des bonnes correspondances entre les deux. Et ça, c'est des enjeux qui sont très compliqués, en fait.
Oui, je crois.
Ouais. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon d'avoir une sorte de continuité perceptive entre l'image et le son qui est bien meilleure que des objets qu'on va aller placer parce qu'on va être dans un médium et on va pas être dans un espace d'objets. Et c'est aussi pour moi, il y a tout un tas d'enjeux, y compris d'ailleurs avec peut-être un brouillard dans l'espace physique, mais tout un tas d'enjeux sur la continuité, en fait, et pas être uniquement sur des objets. Parce que c'est vrai que si on regarde le jeu vidéo, le son, c'est on tape dans quelque chose, ça fait bing, ou on voit des boîtes qui tombent, ça fait bling, bling, bling. Mais on a pas... Oui, mais dans la vie, ça se passe pas comme ça. En fait, si on se déplace dans un lieu où il y a du monde, on va entendre des voix qui passent, il y a une ventilation qu'on va entendre derrière, etc. Donc on est dans un espace continu, constamment, tant sur le plan visuel que sur le plan auditif. Et donc du coup... Le travail, et avec le brouillard, évidemment, c'est renforcé, mais justement, on travaille sur le brouillard intentionnellement sur le plan visuel. Ce qu'on veut être dans cette approche continue de l'espace, et continue aussi entre le physique et le numérique aussi, tant sur le plan audio que visuel. Donc tout ça, c'est des enjeux assez compliqués, quoi, auxquels on a énormément de travail à faire.
Et vous avez aussi travaillé autour de la sculpture, des espaces de sculpture, de peinture, enfin, avec des artistes peintres.
Alors, avec des artistes peintres, non. Je connais une personne qui fait des choses très intéressantes, qui s'appelle Elsa Ayache, qui est une plasticienne, qui a fait des travaux de décomposition de ses peintures. Mais par contre, j'ai des projets en cours, oui, à venir là-dessus. Ce qu'on avait fait avec Fabienne, si. Oui, finalement, c'était quand même un travail. Peut-être tu peux en parler deux minutes, oui.
Oui, je pensais. En fait, c'est vrai que la notion de performance était importante dans ces ateliers. Et en fait, j'étais munie de capteurs et je dessinais avec mon corps. Et les captations, les données des capteurs transmettaient un graphique qui était à mettre en relation. Alors, ce que j'aimais bien dans ce travail, c'était aussi l'idée de mise en relation. C'est-à-dire que David Blair, qui est là, avait travaillé donc, sur le son de la salive, donc l'intérieur, les sons de l'intérieur du corps, les sons de pression des musculaires, etc., agissaient donc sur des données, donc sur un graphique, agissaient aussi sur le son en direct, enfin en temps réel, et le corps se déplaçant organisait un dessin. Voilà. Ouais. Donc effectivement, il y avait une relation entre ce qui était en train de se faire, ce qui se passait à l'intérieur, etc., et l'objectif qui n'a pas été atteint, mais qui c'est un peu normal parce que je me déplaçais vraiment beaucoup. C'était que j'avais en fait à l'initiative de ce projet, je voulais savoir ce qui se passait dans mon cerveau quand je crée, quand je lis T.S. Eliot, quand je lis des poèmes, quand je danse, quand je sais plus où j'en suis et que je veux faire un trait et que je sais pas comment relier une forme à une autre, etc. Enfin, quand ça bidouille dans la tête et je voulais savoir comment ça se rendait et si on pouvait rendre compte d'une autre fiction, de celle qui n'est pas lisible dans le temps présent. Mmh. Voilà, donc Christian a énormément participé à ça et également, même avec ses compétences, je me souviens qu'il m'a proposé des choses tout à fait artisanales et tout à fait séduisantes de mise en espace, etc., et de jeux qui correspondaient vraiment à des points de départ pour aller ailleurs. En fait, la rencontre art-science, c'est une continuité de tout temps. Les artistes ont collaboré avec les scientifiques, se sont inspirés de... Il y a un va-et-vient, tout ça est lié à la vie, à notre condition. Donc il y a ça. Et voilà.
Merci pour ce témoignage.
Bon, on va... Peut-être par rapport à tout ce qui a été dit sur justement cette relation entre l'art et la science, partir un petit peu sur le terrain de la rencontre avec les publics en laissant la parole à Vincent Brouille.
Oui, effectivement, c'est tout à fait la transition que je voulais proposer. D'ailleurs, à l'époque où j'avais rencontré Christian, je travaillais à l'IRCAM, et donc avec Guillermo Schwartz également, avec Roland Cahen, on a pu faire des projets extrêmement intéressants. Et ce qui nous a toujours préoccupé, en tout cas moi, ce qui m'a toujours préoccupé dans mon travail à l'IRCAM, ça a été d'interfacer, d'articuler cette expérience et cette rencontre entre artistes et scientifiques avec le public. Et donc, effectivement, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de ce qui un peu fait l'obsession et la vocation de l'IRI. Donc, l'IRI, c'est un institut de recherche et d'innovation qu'on a créé avec Bernard Stiegler il y a 3 ans. Donc, Bernard était directeur de l'IRCAM, c'est là que je l'ai rencontré. Et déjà, à l'IRCAM, on avait axé beaucoup de recherches, de programmes de recherche, mais aussi d'activités de l'IRCAM sur cette question de la participation du public, au travers de programmes pédagogiques aussi, beaucoup. Hein. Je pense au programme Music Lab, par exemple, que j'avais lancé à l'époque, mais aussi au travers de manifestations comme le Festival Résonance. Donc, j'avais... lancé pendant 4 ans, on a eu ce sentiment de faire participer le public à ces expériences artistiques remarquables. Je crois que tu étais venu d'ailleurs une année à ce festival. Donc cette obsession de la participation du public, elle est relayée à l'IRI par une conviction qui est que on est aujourd'hui dans une époque de post-consommation, disons. Enfin, on peut espérer en tout cas qu'on sort un petit peu du modèle que nous imposent les industries culturelles et qu'on va peut-être, je mets encore des points d'interrogation, aborder plus une ère de la contribution. Et donc c'est plutôt dans cette optique-là que nous développons des appareils critiques, c'est le terme qu'on emploie, qui permettent au public déjà de s'exprimer, de participer, de juger les œuvres qui lui sont présentées, qui peuvent être des œuvres tout à fait contemporaines, comme celles que Christian a montrées, mais qui peuvent être aussi des œuvres du répertoire. Donc je vous montrerai quelques exemples sur des films du répertoire, par exemple, qui ont été les premières expériences qu'on a menées à l'IRI, notamment dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle CineLab. Alors l'IRI, c'est une toute petite équipe, ce sont essentiellement des ingénieurs qui travaillent depuis longtemps sur la question de la critique, de l'enrichissement des œuvres, des médias, des outils qu'on appelle des outils d'annotation, que ce soit sur des films, que ce soit sur de la musique, que ce soit sur du texte, que ce soit sur des photographies. Et ce sont essentiellement des gens qui viennent soit de l'IRCAM, soit de l'INA, donc, de l'ENSI aussi. Nous avons aussi des designers, puisqu'en fait, l'IRI s'est constitué avec le soutien de partenaires vraiment de mondes tout à fait différents. Je ne vais pas vous présenter tout ce que nous faisons à l'IRI, mais je vais vous présenter un petit peu les fondements de recherche qui sont surtout des fondements en sciences humaines et sociales, hein, quelques plateformes que nous mettons en place, et puis je vous présenterai 2 ou 3 projets avec des artistes et des critiques qu'on a pu mener. Alors les quelques points qui sont un peu à la base et au fondement de l'IRI, donc l'IRI s'est créé en 2006, repose sur une conviction qui est que les amateurs, puisque c'est vraiment la figure qui nous intéresse, hein, sont au sens tout à fait positif du terme. Hein, ce ne sont pas du tout des amateurs par opposition aux professionnels ou des gens qui ne seraient pas compétents. Au contraire, pour nous, l'amateur, c'est presque la figure la plus noble qui a été un petit peu pervertie par la société de consommation, puisque si on remonte... à des temps plus anciens, l'amateur, au départ, c'est curieusement une figure aristocratique à la cour de Versailles. Ce sont des grands amateurs qui sont nommés par le roi pour non pas exécuter des œuvres, puisque ça c'est réservé aux artistes, c'est un rôle plus manuel. L'amateur est en charge du jugement, de la critique et la promotion des artistes. Avec l'arrivée des industries culturelles, on rentre beaucoup plus, bien sûr, dans une opposition presque frontale entre le consommateur d'un côté et le professionnel ou le producteur de l'autre. Donc avec un peu une perte de cette figure intermédiaire qui est vraiment l'amateur au sens où il peut être à même d'aimer, il faut reprendre le terme amateur au sens étymologique du terme, et qui peut être amené à aimer, à juger, et à surtout à développer une forme d'enthousiasme. Les Anglais traduisent souvent amateur par enthusiaste. Hein, c'est bien ce terme-là qui nous intéresse, cette figure-là qui nous intéresse. Donc nous avons sur cet axe en sciences humaines, beaucoup de séminaires sur l'histoire, la sociologie et les pratiques amateurs anciennes et puis contemporaines. Ce qui nous intéresse aussi dans cette figure de l'amateur, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'amateur est très clairement amené à pouvoir articuler à la fois son jugement et sa pratique. Donc on le voit bien en musique, un vrai amateur de musique a plus ou moins une pratique musicale, ou en tout cas il a une compréhension de l'organologie musicale. Et cet accès aux instruments, qu'ils soient d'ailleurs pas forcément physiques, mais ils peuvent être tout à fait numériques, cet accès aux instruments, on essaye de le recréer, de le remédiatiser dans le monde numérique, dans l'ordinateur, pour que, un peu comme Cézanne disait qu'il ne voyait vraiment bien la montagne Sainte-Victoire qu'en la peignant, pour bien comprendre une musique ou pour bien comprendre un tableau, il faut pouvoir un petit peu le peindre, le manipuler. Donc c'est ces instruments de l'amateur qui nous intéressent, avec des questions aussi plus du domaine de la psychologie et voire de la psychanalyse sur les questions d'attention, qui sont vraiment au cœur aussi des enjeux aujourd'hui de la diffusion des biens culturels, hein, puisqu'on voit bien qu'on va de plus en plus vers une forme d'attention très, très distribuée. Catherine Hells parle d'hyperattention, donc c'est une spécialiste américaine de ce sujet, dans les jeux vidéo par exemple, où on est clairement sur très loin des formes d'attention soutenues ou prolongées que l'on a eu l'habitude de favoriser à travers l'école, à travers l'enseignement. Aujourd'hui, on se repose la question de quelle forme d'attention il faut privilégier. D'ailleurs, ce n'est pas forcément en revenant à des formes d'attention académiques ou traditionnelles. Il faut très certainement prendre sérieusement en compte des formes d'attention plus distribuées, plus volatile, plus interactive, et c'est tout un peu l'objectif que se fixent les gens qui travaillent notamment dans le serious game, par exemple, dans le domaine des jeux pour l'apprentissage, où on a clairement affaire à cette question. Sur les aspects un peu plus politiques de notre action, on pose que cette figure de l'amateur, elle remet aussi en cause un peu les circuits traditionnels de fabrication des produits. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on partage assez fortement avec l'ENSI. Et donc, on a vraiment appuyé sur l'axe design d'un nouveau monde industriel où on n'aurait plus forcément à raisonner en termes de marketing des produits qui partent d'une analyse des usages des produits de consommation pour alimenter des développements qui finalement arriveraient aux mains des usagers. Donc on pose qu'il y a plus intérêt à partir des pratiques, notamment des pratiques culturelles, sans forcément imposer des produits de consommation d'emblée. Notamment, on s'intéresse beaucoup dans cet axe design du nouveau monde industriel à tout ce qui concerne les objets communicants, les objets ouverts. Et donc, vous avez peut-être entendu parler des Fab Labs. Donc, on essaye actuellement avec l'ENSI de lancer un Fab Lab sur des objets culturels, notamment des objets qui peuvent être fabriqués, qui peuvent être vraiment pris en main par les utilisateurs pour reprendre possession un petit peu de cette technologie qui a malheureusement trop tendance à nous échapper. Mais bon, c'est vrai dans le domaine numérique et de l'informatique, mais c'est vrai aussi dans tous les domaines technologiques. Je pense à l'automobile, par exemple. On sait de moins en moins se servir de son automobile. En tout cas, on sait de moins en moins la réparer ou ouvrir le capot de sa voiture. Donc c'est vraiment cette idée de revenir à une compréhension approfondie de la technologie pour qu'elle soit vraiment démystifiée et maîtrisée par les amateurs, donc parce que c'est vraiment, il faut être amateur de voiture pour bricoler une voiture. Et il faut être amateur d'art pour bien rentrer dans un tableau ou dans un film. Alors qu'est-ce qu'on fait en termes techniques, plutôt sur l'axe donc technologie de l'information et de la communication? On développe des appareils critiques, notamment le logiciel ligne de temps, je vais vous montrer, des techniques collaboratives, donc on s'intéresse beaucoup à comment une communauté d'amateurs, des cercles d'amateurs plus exactement, peuvent travailler ensemble sur des œuvres des œuvres d'art, sur des films ou sur des enregistrements audio ou musicaux. Et enfin, on s'intéresse particulièrement aux ce qu'on appelle les interfaces multimodales. Bon, c'est un secteur que connaît bien Christian, mais dans le sens où, pour nous, une bonne compréhension d'une œuvre ne passe pas forcément uniquement par le cerveau ou par la compréhension cognitive et intellectuelle de l'œuvre, mais aussi par sa manipulation physique. Donc, on assiste aujourd'hui au développement de beaucoup de techniques de capteurs, d'actionneurs et de manipulation des médias qui permettent d'avoir une vraie perception qui passe par le corps. Ça rejoint aussi les théories énactives qui ont été introduites par Varela déjà il y a quelques années. Donc voilà un peu pour les fondements théoriques. Alors, sinon, bon, je vous passe rapidement le contexte, vous le connaissez un petit peu, hein, on est dans un monde où l'information nous envahit. On dit même que les moteurs de recherche seront bientôt dépassés et qu'on aura plus besoin d'accéder à l'information en passant par le texte, mais plutôt directement par l'image. Donc YouTube deviendrait le nouveau moteur de recherche. Donc on a clairement, on rentre dans un monde où, particulièrement pour les adolescents, le contact direct avec l'image, avec le film, avec la vidéo est de plus en plus important. Ça pose des problèmes de grammaire, des problèmes de segmentation, d'indexation, d'annotation du contenu, qui sont pas encore forcément très bien traités par tous ces systèmes, qui ont un peu tendance à nous imposer des contenus sans qu'on puisse vraiment aller naviguer à l'intérieur. Donc là aussi, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ces questions. Les bons exemples pour nous, c'est plutôt, bien sûr, Wikipédia, donc la question de trouver les bons espaces où une communauté d'amateurs va vraiment se passionner pour travailler ensemble sur l'élaboration d'un texte, d'une fiche, d'une description. Donc c'est plutôt ce modèle après lequel on travaille. Alors, c'est fait un petit peu dans un contexte particulier, puisque nous sommes au Centre Pompidou. C'est l'idée aussi que, par ces outils technologiques, il faut permettre à l'amateur de recréer ce que Malraux avait appelé le musée imaginaire, donc ce qui est vraiment constitue pour nous les références artistiques que nous avons en mémoire, que nous avons, que nous aimons et que nous pouvons donc convoquer et pour lesquels on peut retrouver des espaces permettant de situer ces œuvres. Alors là aussi, j'ai cité les amateurs de la cour de Versailles, mais si on remonte un petit peu moins loin au XIXe siècle, les gens n'allaient pas dans les musées forcément pour regarder les tableaux, mais vraiment pour les copier. Hein, aujourd'hui, ça ferait bondir les tenants de la loi Hadopi, mais les œuvres sont faites pour être copiées. Et les amateurs du XIXe siècle, ici dans la grande galerie du Louvre, venaient pour copier les tableaux. Alors, par rapport aux artistes et par rapport, par exemple, ici, une citation d'Andy Warhol, on tient aussi que les artistes s'intéressent de plus en plus à ces pratiques amateurs. Et ce qui nous intéresse, c'est bien de travailler aussi avec des artistes qui ont cette conviction que leur travail peut avoir une résonance avec le public. Et qui sont d'ailleurs eux-mêmes des amateurs. Donc un vrai artiste est avant tout un amateur. Il aime ce qu'il fait, il est à même de partager cet enthousiasme, pour reprendre le terme anglais. Alors en ce moment, c'est un petit peu l'explosion de cette course après l'amateur. Alors, il faut un petit peu distinguer les choses. Hein. Donc là, j'ai distingué un peu l'amateur, l'interacteur, le contributeur. Vous avez de plus en plus de musées qui ont poussé même la démarche jusqu'à faire participer le public au choix des œuvres qui sont présentées dans le musée. Ici, vous avez un exemple fameux de l'année dernière du Brooklyn Museum où leur expo de photographie, donc ça s'appelait Click, et les photos présentées dans le musée étaient uniquement des photos choisies par le public à travers le site web du musée. Donc là, on a plus affaire à une forme de contribution par le public. Il n'y a pas encore vraiment d'interaction ou de pratique de l'œuvre d'art, mais il y a déjà une participation en termes de jugement critique sur les œuvres. On peut aller tout à fait trop loin dans cette direction aussi. Hein. C'est un peu le pouvoir des foules qui nous donne Amazon, par exemple, hein, où vous êtes constamment sollicité pour acheter des livres qui ont été déjà choisis par d'autres clients du système. Alors il y a une autre expo ici au Muséum d'Art Moderne de San Francisco qui retrace un peu cette historique de la participation du public avec les œuvres, avec par exemple cette installation fameuse de Nam June Paik sur la télévision, donc avec une interaction extrêmement physique, extrêmement prenante à travers des microphones, qui a été un petit peu pionnière et qui a inspiré beaucoup d'artistes ensuite. Donc là, on est plus dans le visiteur amateur interacteur avec l'œuvre. Une autre forme de contribution qui se développe beaucoup dans les musées, c'est la contribution à des œuvres qui sont purement online. Donc ici, dans l'environnement Second Life, une œuvre présentée dans l'expo User du ZKM, avec un jeu de mots, vous voyez, sur User, justement, pour recentrer sur la personne, alors que ce terme de User est un peu récupéré par le marketing aujourd'hui. Alors, plus proche de ce qui nous intéresse à l'IRIS, cette figure de l'amateur a été aussi pas mal étudiée par des artistes et des commissaires d'exposition comme Neil Cummings, ici sur une expo sur les amateurs de cinéma dans l'époque soviétique en Pologne, où les amateurs de cinéma étaient équipés de caméras par le gouvernement polonais pour finalement un petit peu mettre en valeur les usines, les entreprises dans lesquelles ils travaillaient, et qui finalement petit à petit se sont émancipés de cette fonction un peu utilitariste qu'on leur avait proposée pour développer de vraies pratiques authentiquement personnelles. Et c'est de là que vient Kieslowski, par exemple. Il a d'ailleurs filmé et réalisé un de ses premiers films, s'appelait L'Amateur. Et où il raconte cette histoire d'un réalisateur amateur qui filme son entreprise et qui petit à petit rentre en conflit avec son employeur et arrive à développer sa propre pratique. Donc c'est une expo qui a eu lieu l'année dernière ou il y a 2 ans sur les amateurs de cinéma en Pologne. Alors je vais passer un petit peu plus vite sur cette figure de l'amateur, je vous l'ai déjà un petit peu illustré, mais disons qu'en résumé, ce qui nous intéresse, c'est de favoriser le jugement critique sur les œuvres d'art, à l'aide essentiellement de technologies d'annotation. C'est aussi de favoriser un temps de contact avec l'œuvre un petit peu plus long que celui qu'on nous impose aujourd'hui. Je crois qu'il y a une statistique qui mesurait que les visiteurs du Louvre passaient en moyenne 48 secondes par tableau au cours de leur visite. Bon, pourquoi pas, c'est toujours une statistique, on peut la tirer un peu dans le sens qu'on veut, mais disons que ce temps long, c'est pas forcément un temps de contact avec l'œuvre qui va être long dans le temps, mais qui peut être éventuellement répété, qui peut surtout être prolongé, pas seulement au moment de la visite du musée, mais éventuellement après la visite par des moyens d'accès aux œuvres sur le web. Donc ça rejoint aussi des problèmes d'écologie de l'attention qui nous préoccupent. L'amateur est rarement aussi un individu isolé. C'est souvent quelqu'un qui aime partager son enthousiasme avec d'autres, avec ses amis. Et on a notamment, je vais vous montrer une expérience qu'on a menée sur une expo du Centre Pompidou, où on a très clairement vu que les amateurs visitaient l'expo à plusieurs et se stimulaient un petit peu leur jugement par rapport aux œuvres d'art présentées en entamant une discussion, un peu comme des cinéphiles qui sortent d'une salle de cinéma et qui, finalement, il y a ce moment magique, hein, au moment où on sort de la salle de cinéma, où il y a tout d'un coup une discussion très, très enflammée, très enthousiaste qui va s'engager à la sortie de la salle. Et donc l'amateur est bien évidemment dans une situation de partager très rapidement son enthousiasme, donc d'où l'intérêt pour des technologies collaboratives, des espèces de blogs évolués, si vous voulez, qu'on développe pour favoriser cette pratique. Et enfin, donc, l'idée d'avoir des instruments, hein, donc vraiment une pratique sensorimotrice par rapport aux œuvres, donc avec des outils d'écriture numérique, des objets communicants, des interfaces multimodales, dont je vais en montrer quelques exemples. Alors ça, c'est le premier outil, le premier instrument de l'amateur qu'on a conçu, très inspiré du domaine musical, puisque au départ, lorsqu'on était à l'IRCAM, on avait créé un logiciel qui s'appelait MusicLab Adontation, qui était l'idée de un peu comme le GRM avait développé l'acousmographe, de proposer cette fois-ci pas seulement aux compositeurs, mais vraiment à l'amateur de musique, hein, en termes d'écoute, des outils qui permettent de représenter graphiquement le temps. Donc là, on l'a appliqué, c'est un peu ces travaux du domaine musical au cinéma, où ça n'avait pas été encore tellement tenté. En reprenant la métaphore de la ligne de temps, bon, qui est utilisée par les monteurs, hein, de cinéma pour monter les films. Mais là, on ne l'utilise pas du tout pour du montage, mais vraiment pour de la navigation et de l'annotation sur les films. Donc là, c'est un film qui est que vous pouvez pas forcément regarder intégralement, parce qu'il est, visualisé sur une toute petite vignette. Il vaut mieux aller le voir dans une salle ou sur un DVD. Mais l'intérêt, c'est qu'on a cherché avec cet outil en ligne, donc qui s'appelle Ligne de Temps, de favoriser un jugement sur le film et un échange de ces jugements entre les différents internautes. Alors le principe est simple, il y a une première ligne qui est ici, qui est un plan par plan, qui est fabriqué automatiquement par le logiciel. Quand on rentre le film, on peut rentrer d'ailleurs n'importe quel film dans le dispositif, et la segmentation par plan va être automatiquement produite. Et ça va donner une sorte de cadre, une sorte de partition de départ qui, à la manière d'une partition musicale, va donner un cadre aussi de discussion. Parce que ce qui nous intéresse dans le jugement sur les œuvres, c'est d'essayer de situer toujours une parole ou un jugement esthétique, de le situer par rapport à un élément assez précis de l'œuvre. Sinon, on tombe dans des blogs ou dans des forums de discussion où finalement les gens disent j'aime pas, mais on ne sait pas vraiment par rapport à quoi est-ce qu'ils expriment ce jugement. Donc là, le principe est très simple, je peux créer mon découpage et choisir effectivement un segment extrêmement précis du film. Alors, voilà, on peut le visualiser. Et on peut l'annoter, donc on peut modifier, hein, les annotations s'il y en a déjà, ou on peut les compléter s'il y a eu des annotations d'une autre personne. Donc à l'aide de ce petit outil qui est une sorte de bloc-notes, on peut aussi rajouter des mots-clés pour repérer les éléments. Donc ça, c'est le premier outil qui est proposé. Et un autre outil qui est plus visuel, qui est plus graphique et qui permet aussi d'alimenter un peu une lecture de cet espace graphique. En fait, on peut lire ce film à partir du moment où on a commencé à fabriquer des lignes de temps. Ici, par exemple, une ligne de temps qui repère le personnage de Nosferatu dans le film. L'idée, c'est de pouvoir combiner des clés de lecture qui ont été identifiés dans le film. Par exemple, ici, si je croise le personnage d'Nosferatu avec une façon de filmer, hein, qui est cette, par exemple cette forme à l'iris, qui est une forme particulière utilisée par Murnau. Donc à partir du moment où on peut commencer à faire ce type de lecture un peu verticale, on peut aussi prendre des éléments du film, par exemple à la fin, au début et à la fin du film, et constituer ce qu'on appelle un bout à bout, qui peut être joué par exemple sur deux écrans pour comparer un peu à la manière d'une sorte de littérature comparée, où on peut développer donc un espèce de double point de vue sur le film en comparant le début et la fin du film et en rajoutant immédiatement des sortes de cartels, un peu comme dans le cinéma muet. Où on peut aussi aller chercher des images ou des éléments sonores ou des éléments vidéo qui vont être intercalés dans le bout à bout. Alors ça a très bien fonctionné dans toutes les démarches qui sont entreprises avec les écoles, notamment pour un peu développer une autre éducation au regard. Donc on a mené beaucoup d'expériences avec des écoles sur ce logiciel. Alors il y a bien sûr d'autres utilisations plus savantes. Ici des critiques de cinéma qui ont travaillé avec nous, Jean-Louis Comolli, Youssef Ishakpour, Alain Bergala. Je vous montre un travail fait. Alors oui, j'ai pas mis le son.
Je voulais juste demander quelque chose avant de passer à autre chose. Voilà. Est-ce que lorsque les enfants mettent ces annotations, ils ont déjà vu le film au préalable?
Oui, obligatoirement.
Ah voilà, d'accord. Ouais,
parce que ça ne joue pas sur des ruptures de rythme, des raccords brusques.
Oui, c'est un préalable.
Il faut voir les traits noirs.
L'outil est vraiment fait pour
les différents fragments
avoir
de la
un retour
de temps
sur,
de l'esprit de la
sur
bouche,
l'œuvre
comme
après
des coupures,
sa première appréhension.
Beaucoup plus que comme des coupures.
Donc là, le critique a.
À l'intérieur de chaque fragment de cette.
A choisi
de
filmer son interaction avec le logiciel pour faire le commentaire du
discontinuité. Donc il n'est pas généré par le montage. Mais par la
il développe son jugement critique, un peu comme s'il écrivait un article sur le film, sauf que son article est vraiment visuel, il est vocal, puisque il commente le film. Ici, c'est un film de Victor Hérissé, c'était une expo sur
formée d'alvéoles,
le réalisateur espagnol Victor Hérissé et sur Abbas Kiarostami.
Le motif de l'alvéole est d'ailleurs récurrent sur les vitres de la maison,
qui avait été présenté en 2007
jaune
au centre
de la lumière dominante dans les plans intérieurs.
Je ne sais pas si je peux aller sur la jusqu'à la fin.
Répondent. Les plans se raccordent avec douceur et
peut-être pas vouloir que j'aille tout de suite à la fin. Ouais. Mais donc à la fin, il y a carrément une espèce de mise en abîme puisque le film de Victor Hérissé, ici c'est l'esprit de la ruche, est commenté par des extraits d'un autre film de Victor Hérissé qui est La Morte Rouge, donc il y a, par le double écran. Donc finalement le critique met en scène le jugement du réalisateur sur sa propre œuvre en utilisant deux de ses films.
Est-ce qu'il y a des personnes qui utilisaient ça dans la création aussi?
Alors, je vais y venir, voilà, parce que effectivement, pour l'instant, là, je suis dans la phase analytique, donc on est vraiment sur du travail, mais nous commençons à développer un petit peu des fonctions de création. Donc ça existe déjà, finalement, dans le programme pédagogique de la plupart des enseignants qui travaillent sur le cinéma. Il y a toujours un premier trimestre d'analyse sur des œuvres du répertoire ou sur des œuvres contemporaines. Et ensuite, les élèves prennent une caméra et vont filmer. Donc ce qu'on est en train de développer, c'est en fait, dans Ligne de temps, la réintroduction du film qui a été fait par les élèves et la mise en regard du film qu'ils ont tourné eux-mêmes avec le film qui les a inspirés, finalement. Donc si vous voulez, ce sont des sortes de « à la manière d'eux » qui sont filmés par les élèves, mais qui sont ensuite remis dans le logiciel pour bien comparer d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue esthétique et aussi émotionnel, quels sont les points qui les ont particulièrement intéressés et qu'ils ont repris dans leur acte de tournage du film. Donc ça, c'est un premier pas, disons, dans la direction d'une, d'une utilisation plus créative du logiciel. Mais sinon, après, il y a des outils de manipulation de l'image qu'on développe, mais qui sont pour l'instant encore très, très rudimentaires. Mais on va dans cette direction.
Est-ce que les items qu'ils utilisent pour annoter sont des items qui sont standardisés ou est-ce que chacun se fait sa propre
alors
mode d'annotation?
C'est au choix de l'amateur, entre guillemets, et, ou de l'enseignant avec ses élèves. Il y a certaines, particulièrement dans le domaine pédagogique, dans certaines classes choisissent d'avoir d'abord un travail un peu réparti, donc ils se répartissent les tâches par rapport à des repérages d'éléments du film. Ce qui fait qu'après, la classe entière va disposer d'une sorte de savoir qui a été produit collectivement, qui sont toutes ces lignes de temps où, par exemple, deux élèves ont repéré les personnages, deux élèves ont repéré les plans rapprochés, d'autres élèves ont repéré les travelling, et cette mise en commun de travail, de regard, de jugement sur le film, va ensuite permettre de créer ce que nous on appelle un regard signé, où là vraiment l'élève est invité à s'engager beaucoup plus dans son jugement par rapport au film. Donc il y a la possibilité de commencer par une phase un petit peu systématique, pour constituer des briques, donc comme tu le dis, des éléments, des unités de sens qui sont un peu standardisées et qui vont pouvoir être utilisées par le groupe. Sinon, beaucoup de gens préfèrent commencer avec le film à nu, donc on a en général que la ligne de plan par plan qui est donnée par le logiciel, et c'est ensuite vraiment à la discrétion de l'amateur qui peut aller rechercher même éventuellement des passages du film où il va décrire non pas ce qui se passe dans le film, mais ce que lui ressent. Donc c'est carrément de la notation sur le hors-champ, sur son ressenti par rapport à l'œuvre. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un outil, un bloc-notes suffisamment ouvert pour finalement ne pas forcément être collé à des éléments techniques ou statistiques ou même esthétiques, mais pouvoir vraiment travailler sur des impressions, des émotions qui ont été... qui sont les éléments qu'on va créer soi-même, puisqu'on peut choisir les unités de sens, la longueur aussi des segments qu'on veut utiliser, la couleur, enfin on peut se créer soi-même son univers de jugement de l'œuvre. Alors là ici c'est sur un film de danse qui nous a pas mal occupé, qui est One Flat Thing Reproduced de William Forsythe. Et on a eu la chance de travailler avec Thierry Demey, donc le réalisateur de ce film, sur la chorégraphie de Forsythe. Et je vais vous montrer donc le travail qu'on a mené avec Thierry. Thierry qui est non seulement un réalisateur, mais qui est aussi compositeur, et qui a vraiment une volonté de mettre entre les mains du public les clés de lecture ou les clés de réalisation qu'il a utilisées dans son travail de création. Il fait de plus en plus d'installations d'ailleurs, donc par exemple Light Music ou bon, il y a des pièces interactives et il y a des installations où le public peut interagir avec les films. Je vais vous montrer pour finir cet aspect-là. Alors je dis juste un mot de Traces du Sacré, qui est un autre contexte de participation du public qu'on a testé. Bon, Traces du Sacré, c'est une expo qui a eu lieu l'année dernière, en 2008, au Centre Pompidou. C'est une expo de tableaux, principalement, pour laquelle on attendait, on espérait ou on redoutait, pour certains, des critiques assez virulentes contre le Centre Pompidou, parce que c'était un postulat du commissaire de l'exposition, donc Jean Deloisy, plutôt inhabituel dans le monde de l'art moderne, puisqu'il cherchait finalement à montrer que un grand nombre de tableaux et d'œuvres contemporaines et modernes a vraiment une inspiration spirituelle, religieuse. Donc c'était, on s'attendait un petit peu à une levée de bouclier par rapport à ce parti pris. Il y a eu d'ailleurs un numéro d'Art Press qui était assez contre l'expo sur ce plan. Mais en dehors de cette critique un peu virulente d'Art Press, il n'y a pas eu beaucoup de critiques du public, comme on aurait aimé qu'il y en ait finalement, parce qu'on avait créé tout le système pour que le public puisse s'en donner à cœur joie pour critiquer le parti pris de l'exposition. Alors comment c'était construit ? L'idée, c'était toujours d'avoir une possibilité d'interagir vocalement avec les œuvres, donc soit à travers de l'audio guide de l'exposition, soit au travers du téléphone portable du visiteur, qu'on voit ici l'audio guide. Et sur l'audio guide était proposé un système d'enregistrement du son, donc on pouvait enregistrer sa propre voix par rapport à une œuvre ou par rapport à une thématique bien particulière. On pouvait aussi produire un petit dessin sur la tablette par rapport aux œuvres qui étaient présentées. Alors, ce qui est intéressant dans la recherche qui a été menée, c'est que on a repris en fait des travaux qui avaient été menés par Bernard Stiegler déjà il y a très longtemps à l'UTC sur le principe du formulaire vidéo, c'est-à-dire de pouvoir d'obliger d'une certaine manière à ce que la discussion ou le commentaire soit situé par rapport à une thématique bien précise. Et donc, lorsque le visiteur voulait enregistrer son commentaire, il était obligé de choisir une salle ou une œuvre ou une thématique particulière en tapant un numéro relatif à cette œuvre. Ce qui permettait ensuite de retrouver toutes les contributions par rapport, c'est toujours un peu notre obsession, par rapport à quelque chose de bien précis, donc, par rapport à une thématique ou par rapport à un sujet de débat qui était bien tagué aussi, parce que le problème des contributions amateurs ou des contributions de visiteurs, c'est que souvent on leur demande trop de travail, de leur demander de en même temps de s'enregistrer, mais en même temps de commenter, de rajouter des tags, etc. Ça fait beaucoup. Donc là, avec ce système, on pouvait taguer automatiquement les contributions avec au moins les mots-clés de base du thème qui avait été identifié ici. Un autre objectif pour nous est toujours de croiser des points de vue un petit peu experts, ce qu'on appelle un peu le top-down dans notre jargon, c'est-à-dire à la fois le point de vue du commissaire de l'exposition, mais aussi des d'artistes et de critiques qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, mais enfin c'est toujours des points de vue un petit peu experts, et de combiner ce forum de discussion finalement avec des visites d'amateurs dans l'espace. Et bien sûr, avec une grande attention à l'indexation de toutes ces contributions, quand on tape un mot-clé dans le moteur de recherche, on retrouve automatiquement dans ligne de temps, en surbrillance verte, les segments audio ou vidéo qui portent vraiment sur la thématique, ici Apocalypse par exemple, qui ont été choisis par le visiteur. On pouvait aussi, donc dans son espace personnel, ici c'est mon espace personnel, récupérer tous ces enregistrements produits sur les mobiles et fabriquer sa propre visite par exemple, combinant le parcours de Jean Deloisy, celui d'un visiteur qui était passé avant moi dans l'expo, et puis donc mes propres contributions, ici en audio, de manière à produire une sorte de visite personnelle qui pouvait être ensuite accessible aux autres visiteurs dans ligne de temps ou sous forme de podcast que les gens pouvaient remettre sur leur baladeur et puis revisiter l'exposition donc avec cette visite personnelle, cette visite finalement fabriquée à l'avance pour revenir visiter l'exposition par exemple avec des points de vue de visiteurs ou des points de vue d'autres critiques ou d'autres artistes qu'on avait assemblés, préparés dans le dispositif, dans le système. Voilà, alors j'ai pas le temps de vous passer il y a eu toute une analyse hein, du public qui a été faite par une étudiante de Paris 13, donc je passe rapidement là-dessus. Juste pour vous montrer d'autres interfaces et d'autres outils qu'on développe, ici c'est un travail qui a été fait avec l'ENSI, avec Antoine Boilevin, qui est un designer, un jeune designer qui vient de sortir de l'ENSI. C'est l'idée de taguer bien sûr les contributions des amateurs, des utilisateurs, mais aussi de leur demander de se positionner dans un espace de débat, dans un espace critique. Par exemple, lorsque leur contribution est plutôt en opposition avec le segment qu'ils ont écouté, elle va être taguée en rouge. Lorsqu'elle est au contraire, elle renforce le point de vue qu'on a écouté, elle va plutôt être taguée en vert. Donc on est cette espèce de boussole, appelée boussole sémantique, qui permet de naviguer pas seulement en cliquant sur des mots-clés, mais aussi en cliquant sur finalement une direction contraire à l'avis de la personne qu'on a écoutée en premier, ou au contraire dans le même sens que cette personne en cliquant sur les points verts, ou bien aller chercher des références plutôt neutres en jaune, où il y avait aussi possibilité de poser des questions, qui est une autre forme aussi de direction, de dialogue. Ce qui finalement un peu notre obsession, c'est de recréer des espaces de dialogue dans les systèmes de jugement et de critique des c'est que le temps réel est très certainement un domaine où la contribution est plus authentique. C'est un peu toujours l'image que je reprends du cinéphile qui sort de la salle de cinéma. Les réactions les plus intéressantes sont souvent celles qui ont été à chaud à la sortie de la salle ou juste après le spectacle, par exemple. Donc là, on travaille sur un dispositif qui permet d'annoter en temps réel, pendant qu'une personne parle, par exemple, ça s'applique ici à des conférences, d'artistes ou de critiques. Ici, c'est un designer, c'est John Maeda. Donc, pendant sa conférence, qui peut être d'ailleurs à travers le web, on a ici non pas des blogueurs, mais des annotateurs qui se sont un petit peu répartis les rôles. Certains vont annoter plutôt de manière très classique, ils vont chapitrer un peu le travail, les propos du conférencier, d'autres vont apporter un point de vue plus esthétique, d'autres des points de vue plus scientifique, donc il y a une sorte de travail collaboratif, de jugement collaboratif sur un propos qui se tient en temps réel. Donc là, c'est le temps réel, mais à tout moment, je peux quitter le temps réel et avec une espèce de deuxième curseur, je vais dans le temps antérieur pour poser un commentaire, un segment sur des choses, enfin des propos qui ont déjà été tenus dans le passé de la conférence. L'idée, c'est de produire immédiatement après l'événement quelque chose qui soit immédiatement publiable. Et c'est un peu le phénomène Twitter, en fait. Mais on avait déjà pensé à ce type de système avant que Twitter n'arrive. C'est une sorte de tweet un petit peu plus instrumenté, disons. Mais... en écrivant directement dans une fenêtre visible de l'ensemble des internautes. Donc le tweet, c'est un peu le même principe, ce sont des fils de discussion qui sont visibles de l'ensemble des gens qui se connectent sur ces fils de discussion et qui sont en général produits au moment d'un événement ou au moment d'une diffusion. Ça a été un petit peu lancé par Obama au moment de sa campagne présidentielle, c'est là que Twitter a vraiment été largement utilisé pour lui faire un commentaire en temps réel du discours d'Obama. Mais c'est aussi un instrument politique, ça a eu un grand rôle dans les événements en Iran, puisque beaucoup d'informations sur les manifestations étaient transmises par Twitter, par les manifestants en Iran. Donc c'est un outil qui a un poids, enfin qui a un rôle social maintenant assez fort. Alors je finis avec Thierry Demey pour revenir à des sujets plus artistiques, ça nous permettra de discuter avec Christian. Thierry Demey, on a commencé à faire un travail avec lui plutôt sur les questions cinématographiques et chorégraphiques. Et son idée, c'était de définir des thématiques soit tout à fait cinématographiques, par exemple repérer les tables qui dans ce film sont très importantes, puisque les danseurs sont constamment sur les tables, sous les tables, frappés sur les tables, etc. Soit des échelles de plan, des repérages des groupes de danseurs, ou bien des éléments plus chorégraphiques, donc repérage des articulations, des passages, comme des passages de relais entre danseurs, des relations plus personnalisées entre danseurs, des stratégies formelles. Et donc tout ce travail de repérage à la fois cinématographique et chorégraphique, on a essayé d'en faire une sorte de grammaire simplifiée, parce que dans le raisonnement et dans la pratique artistique de Thierry Demey, ça va extrêmement loin. Il enseigne d'ailleurs toute cette stratégie-là.
Il a une école, en fait.
Il a une école,
Charleroi
absolument.
Danse.
Charleroi
Danse.
Moi,
je vais souvent là-bas. C'est très bien.
Ouais, voilà. C'est là qu'il enseigne et c'est là qu'il développe toute cette... À la fois ce regard sur la danse et en même temps sa propre technique de tournage et de montage de ces éléments. Mais il est aussi compositeur et en 1983, je crois, il avait été vraiment un pionnier dans ce qu'on appelle la notation gestuelle, puisqu'il a créé une pièce pour percussionnistes. En fait, ce sont des percussionnistes qui jouent sur des tables, hein, donc qui lui avait permis de commencer à définir une sorte de partition gestuelle. Ici, c'est la partition d'ailleurs de l'œuvre. Hein. Vous avez ici la partition musicale. Et donc vous avez les trajets des mains qui sont dessinés, les symboles donc à utiliser ici se reportent hein, à des éléments notés extrêmement précis, hein, des frappes, des frottements sur la table. Enfin, c'est une pièce absolument fantastique, merveilleuse, qui a été très souvent jouée, hein, qui est vraiment une référence et qui a été vraiment pionnière dans le domaine de la notation gestuelle. Donc on s'est inspiré aussi de ce travail-là pour essayer de donner au public un instrument qui soit à la fois un élément de navigation dans le film de Forsythe, donc dans One Flat Thing, mais qui soit aussi un élément permettant de jouer avec ses propres gestes en correspondance avec les gestes des danseurs. Donc ça s'incarne sur une table multipoint qui n'est pas terrible d'ailleurs. C'est des tables de Microsoft qui sont vraiment pas très intéressantes parce que très limitées en termes de programmation et de capacité de gestes. Mais enfin bon, on a pu un petit peu bidouiller le système pour arriver à s'en sortir. Mais ce qui nous intéressait, c'était surtout de pouvoir, sur les images du film, utiliser des gestes qui permettent à la fois d'annoter, par exemple ici, une structure en carré des danseurs peut être reprise avec le geste sous forme d'un tracé carré sur l'écran, de manière à annoter le film, non plus avec des mots-clés, comme je vous l'ai montré précédemment, mais d'annoter le film avec des gestes qui sont ensuite réutilisés pour naviguer à l'intérieur du film. Donc ça, c'est des directions extrêmement intéressantes. On en est encore au tout début de ce travail, mais il y a un projet ANR aussi qui s'appelle Enactive Ciné qui va nous permettre de travailler sur ces questions de rapport entre gestes et cinéma. Voilà, donc j'ai fini, excusez-moi, j'étais peut-être un peu long, mais vous avez là, ici, sur ce site, beaucoup d'enregistrements de nos séminaires sur la question de l'amateur, ou sur le design, ou sur la muséologie, les nouvelles formes de muséologie, une nouvelle forme d'accès aux œuvres à l'intérieur du musée, sur ce site iri.centrepompidou.fr.
Bonjour, je me présente, Daniel Schutz. Donc, je travaille dans une PME dite de technologie innovante et je suis assez interpellé par juste un aspect. Je sais que nous, des sociétés, on en parle souvent. Vous parlez régulièrement des financements ANR, des projets ANR, donc l'Agence Nationale de Recherche, pour ceux qui ne connaissent pas, qui subventionne, entre autres, les laboratoires pour faire de la recherche. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de projets de nature artistique. Ou de cette nature-là qui sont financés par l'ANR, or que pour nous, un peu du milieu entreprise, En général, quand c'est de l'artistique, vous allez voir les maigres financements qui existent au ministère de la Culture, qui ne donnent pas grand-chose. On ne peut pas arrêter des projets avec des artistes, parce que chez nous, d'ailleurs, la frontière entre l'artiste et l'ingénieur est très floue. Bon, ils sont les deux, souvent. Et on essaye d'arrêter des projets qui ne soient pas trop orientés entreprise, et on a mal fou à financer ça. Donc, c'est intéressant,
on a du mal
de
aussi,
poser la question.
Ne vous inquiétez voilà. pas, c'est pas
parce que
c'est
j'ai
pas
vu
aussi
ça,
facile.
il y a un air, je suis un peu étonné.
Je pense qu'il faut clarifier quand même, l'ANR n'a pas, dans aucun des projets, enfin moi j'ai été dans deux projets, donc un projet qui s'appelle Sound Delta, donc qui était un projet où il y avait effectivement des partenaires artistiques, puis là on a le projet donc Topophonie, à l'intérieur du projet, il n'y a pas vraiment financement d'œuvres d'art, il n'y a pas de production artistique dans les projets ANR. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir, c'était aussi le cas du projet Virage d'ailleurs, dans lequel j'étais aussi, c'est qu'il peut y avoir des applications artistiques ou créatives, des travaux de recherche qui sont effectués, mais qui ne visent pas à la diffusion d'un spectacle ou choses comme ça. C'est uniquement des collaborations avec des artistes sur des aspects applicatifs du travail, qui peuvent d'ailleurs même être encouragés par l'ANR. Enfin, moi, je peux dire quand même en témoignage que on a eu la revue de fin de projet, donc justement de projet Sound Delta, qui était un projet de réalité augmentée audio avec une déambulation dans un espace sonore, donc un soundscape. Et on a été un peu critiqué à la revue du projet parce qu'on n'avait pas assez insisté sur les réalisations artistiques qui avaient été faites à l'issue du projet. On avait un peu trop mis l'accent sur les aspects technologiques et scientifiques, alors qu'ils auraient attendu un peu plus de déclinaison. Mais attention, ça restait dans le cadre du projet, c'est-à-dire vraiment, c'était des déclinaisons qui étaient des sortes d'illustrations, puisque c'était quand même un projet qui était fait pour réaliser des installations. Mais c'était pas, enfin, en tant que tel, faut pas se tromper quand même, hein. L'ANR n'est pas là pour financer des productions artistiques.
On le sait, mais c'est toujours le même problème qui revient, c'est la difficulté de mener à bien ces projets d'un point de vue recherche. Payer les créateurs sans devoir gruger et dire toi t'es un ingénieur et t'auras tel milestone.
C'est possible, mais il faut que la qualité scientifique et éventuellement applicative du projet soit bonne. Mais le projet ne sera pas rejeté parce qu'il a des applications artistiques. Ça ne sera certainement pas un critère de rejet. Par contre, après, il y a un problème de qualité même du projet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est il faut comprendre les critères sur lesquels les projets que vous avez pu proposer ont été rejetés, mais certainement pas parce qu'ils avaient une déclinaison artistique.
On n'a pas encore proposé un ANR. Oui. C'est question de créer les liens avec les laboratoires qui, eux, sont porteurs. C'est en route. Et justement, c'est très intéressant aujourd'hui.
Alors, bon, c'est un débat qui est ancien déjà. Et en fait, qui avait poussé à l'époque à la création du RIAM, le réseau des industries audiovisuelles et multimédia. Voilà, donc c'était à l'époque, moi d'ailleurs j'avais beaucoup milité pour ce réseau-là, parce que à l'époque, il y avait un cofinancement à la fois du CNC, donc côté ministère de la Culture, et du ministère de la Recherche, côté scientifique. Donc on était encouragés à développer des projets, et à l'IRCAM on en a fait beaucoup, hein, des projets RIAM, où la dimension artistique n'était pas directement financée, mais où en tout cas le terrain applicatif artistique était reconnu. Bon, ça c'était déjà un grand pas. Maintenant, pour vraiment financer une production artistique, il faut aller chercher les financements ailleurs, et on peut tout à fait les combiner avec un projet ANR. Donc souvent, il y a un projet ANR qui va financer la recherche et les développements, et il y a une aide du CNC complémentaire qui peut apporter un financement pour la production d'une installation, d'un documentaire, d'une œuvre en général. Alors ça complique un petit peu, mais si on veut vraiment à la fois faire une production artistique et un développement, il faut combiner un peu ces financements.
Future en scène est aussi Future en scène fait aussi un peu la même fonction de faire un peu la partie plus, disons, plus orienté vers la création artistique que le projet.
Oui, surtout que l'appel qui vient d'offre, c'est une bonne évolution. Je ne suis pas là pour critiquer, c'est vrai. Oui, oui. Il y a plus de guichets aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, on peut le dire. Moi, mais c'est toujours très difficile.
Et d'ailleurs, je pense que ce commentaire, je serais aussi l'accompagner du côté recherche. On a maintenant aussi plus de conférences où on peut valoriser des collaborations art sciences. Il y a plus de tracks artistes, de pistes artistiques dans les grandes conférences comme CAI, ACM Multimédia, etc., qui maintenant ont explicitement des lignes d'appel sur des projets art sciences. Donc il y a vraiment, enfin, je pense que ça va dans le bon sens, en fait. Hein. Je pense qu'on ne régresse pas de ce côté-là.
Que ça veut, tout ça voudrait sous-entendre que la figure du créateur aurait changé.
Oh bah les artistes, aussi bien ceux que Christian a côtoyés que ceux qu'on a impliqués, nous, dans des projets, que ce soit à l'IRCAM ou à l'IRI, clairement, la position de l'artiste change. Elle est complètement... d'abord, l'artiste est, c'est vrai, considéré comme une sorte de chercheur dans ces projets-là. Il n'est pas sommé de produire l'œuvre finalisée. Il est incité, au contraire, à expérimenter, à se permettre d'explorer une œuvre en construction. Et puis surtout, il a un rôle social. Enfin, en tout cas, nous, dans nos projets à l'IRI, on lui demande toujours d'expliciter son travail, de le rendre accessible au public. Donc finalement, il se transforme. Il est artiste, il est chercheur, il est pédagogue et il est médiateur. Donc c'est beaucoup, mais c'est clairement aussi je pense pour les artistes aujourd'hui, c'est une opportunité de diversifier aussi leur action, leur public, en traversant un peu tous ces rôles dans les projets. C'est vrai que ça change un peu la position de l'artiste dans sa sphère isolée. À l'IRCAM, par exemple, on avait beaucoup cette image-là avec la période boulésienne, hein, où les artistes, les compositeurs de l'IRCAM étaient considérés un petit peu comme devant rester un peu distants par rapport aux chercheurs, devant... Finalement, il y avait toujours l'articulation entre le passage entre recherche et création, c'était toujours un bouleversement, quoi. C'était d'ailleurs parfois par des voies détournées que ça se passait. Aujourd'hui, les jeunes artistes, les jeunes compositeurs, par exemple, sont plus impliqués directement dans les travaux de recherche. C'est aussi parce que la technologie s'est développée. Je crois qu'il y a, pendant longtemps, on a un petit peu trop isoler l'artiste du chercheur parce que il n'y avait pas vraiment d'outils de dialogue entre les deux. Ou sinon, c'était des outils conceptuels ou théoriques ou poétiques, quelquefois. Hein. Donc on se disait, tiens, on va mettre un astrophysicien avec un musicien, ils vont sûrement pouvoir se parler, ils vont sûrement avoir un langage en commun. Alors qu'aujourd'hui, non seulement ils peuvent avoir un langage commun, mais ils peuvent aussi avoir des outils communs pour produire. Et ça, c'est aussi parce que il y a des développements technologiques qui le permettent. Alors moi, je suis très technophile. Je trouve que dans la technologie, il y a vraiment un champ extraordinaire pour le dialogue art-science. Il y a d'autres gens qui sont contre la technologie, même à l'IRCAM, hein, et qui disent non, la discussion art-science doit se faire sur les concepts, sur les...
Elle existe aussi.
Elle existe aussi, c'est pas la même chose. Non. Il y a vraiment deux choses.
Par rapport à ce que vous disiez, il y a aussi la notion de pluridisciplinarité, parce que quand on fabrique des objets et qu'on fabrique des objets vivants ensemble, on est forcément amené à utiliser énormément de vecteurs et donc d'appréhender, d'avoir des expériences de tous ces vecteurs pour pouvoir communiquer déjà avec les personnes qu'on travaille, etc. Et voilà, tout se dit pour dire que l'isolement est peu probable puisqu'il s'agit de faire des choses ensemble et de maîtriser vraiment plusieurs choses à la fois qui ne sont pas toutes et à mettre en relation le son, l'image, le texte, le corps, le mouvement, la vie, le processus vivant, en fait, donc, et la technologie. Donc tout ça fait que les artistes ont du pain sur la planche.
Ah oui, je pense qu'on peut le dire la même chose pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a aussi un gros problème de cloisonnement dans le système éducatif français, et qui est pas le cas de, qui est moins le cas dans d'autres pays, et on est handicapé en fait. On est handicapé parce que les étudiants n'ont pas une formation pluridisciplinaire. C'est très difficile de faire des projets hybrides, ne serait-ce qu'entre SHS et Sciences pour l'ingénieur, mais encore plus difficile entre les écoles qui relèvent du domaine du ministère de la Culture et celles qui relèvent du ministère de l'Éducation nationale. On essaie de commencer à mettre en place des thèses dans les écoles d'art. Enfin bon, il y a tout un tas de choses, mais bon, le système français est vraiment à la traîne. Il y a effectivement des évolutions des mentalités chez les scientifiques. Par exemple, pour donner un exemple, j'ai proposé un projet sur une thèse sur analyse du geste dansé et animation de modèles physiques, donc un hybride entre qui était IRCAM et l'IMSI, et qui est passé dans les thématiques prioritaires de l'université. Donc pour moi, j'étais très étonné. Je me suis dit, très bien. Bon, alors c'est pareil, on a un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, les choses évoluent, mais on a un gros, gros retard dans le système éducatif français sur les transversalités art-sciences et sciences humaines, sciences pour l'ingénieur. On est sur la pluridisciplinarité. On n'a pas beaucoup de lieux de rencontre, de campus mixtes où on peut effectivement faire en sorte que les étudiants aient des vraies formations hybrides. Donc il y a un travail énorme à faire, et puis il faut qu'on se dépêche de le faire, parce qu'il y en a d'autres qui le font à notre place et puis qui en tirent des avantages. Donc je pense qu'on a beaucoup de boulot à faire de notre côté, et c'est pas gagné, quoi. C'est parce que notre système est très cloisonné et très, très, très disciplinaire, en fait. Et on a beaucoup de mal. La pluridisciplinarité se heurte tout de suite à des conflits d'intérêts, de savoir qui a le pouvoir, etc. Bon, ça se fait, hein. Il y a des choses, et à Paris 6, il y a des choses qui sont avec la musique en particulier. Mais il y a des choses qui changent, hein, mais il y a des DEA comme le DEA à Thiam, enfin le master recherche à Thiam. Enfin, bon, il y a des lieux qui existent, mais c'est difficile. Puis il y a des lieux qui ne se prêtent pas à ça. Mon université, typiquement, c'est une université qui est faite d'informaticiens, de chimistes, etc. Donc on a personne sur le campus on n'a pas d'enseignement ni de recherche à part les STAPS, mais bon, qui sont un domaine, les activités physiques et sportives, qui sont un domaine qui touche un peu aux sciences humaines, mais de façon quand même assez ténue. À part ça, on n'a rien, quoi. Je veux dire, c'est, pour moi, c'est quand même un peu un désert par certains côtés, et j'estime qu'on forme mal nos étudiants parce qu'on les forme de façon beaucoup trop mono-thématique, quoi. Et au bout du compte, après, ils ignorent tout un pan de ne serait-ce que de la philosophie des sciences, des choses comme ça qui ne vont pas avoir, quoi. C'est dommage, hein. Sans parler des aspects culturels.